Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 272 du podcast Jean Actuel à Mathieu. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL. À mes côtés cette semaine, je crois qu'il est passé chez le coiffeur, si je vois bien, c'est Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël.
Salut à tous et tu es très bien vu.
Ah voilà, je vois que le cheveu est un peu plus court que d'habitude. Son chevelu est toujours aussi brun et saillant, c'est Camille Sarabène. Bonjour Camille.
Salut.
Camille, est-ce que les cheveux sont plus longs que la barbe ou l'inverse?
c'est pas loin, mais je pense que les cheveux sont un peu plus longs là.
Ouais, ouais, ça je me demandais. Comment?
Ça pourrait changer rapidement, mais...
Ouais, voilà, je te demande parce que je suis dans la même optique en ce moment, j'essaie de faire la barbe plus longue, mais comme j'ai beaucoup moins de cheveux que toi, c'est plus facile. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On. C'est tous les dimanches, encore une fois cette année. Ça reprend hein, ce dimanche pour la semaine, on sera encore en semaine 16 du coup. Et puis n'oubliez pas, on y sera le 8 janvier et le 5 février prochain pour des enregistrements en public de l'émission du mardi. Il y aura Happy Hour étendu. Si vous venez nous voir, on commencera je pense comme les autres années vers 18h, enregistrement à 19h. Et puis ensuite une petite bouffe, donc n'hésitez pas à venir. 8 janvier, 5 février, 8 janvier ce sera... le débrief des wildcards, si je ne dis pas de bêtises, et 5 février, débrief du Super Bowl, bien évidemment. Est-ce que c'est la renaissance des Vikings et des Eagles, la fin du règne des Patriots? Oui, des grosses, grosses questions bien troll cette semaine. Les leçons de tous les matchs, les tops, les flops, vos questions et le 2-minute warning. C'est parti pour une nouvelle édition. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Now the pressure. Brady heaves it, and is it intercepted? He came down with it, and a feet down for Hayden. Intercepted. Oh man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me thanks. Old Man, alors on a mis Tom Brady, mais on en reparlera après. On va commencer par Vikings. Dolphins, Vikings 41, Dolphins 17. Est-ce que les Vikings peuvent être les Eagles de cette année, Raphaël? Je commence par une question. Oui, très marqué ESPN, First Take.
Ouais, je vois ça. Est-ce qu'ils peuvent être les Eagles? J'ai peut-être un peu plus de doutes parce qu'eux ont quand même une ligne offensive assez poreuse, contrairement aux Eagles l'an dernier qui étaient quand même bien... fort sur la ligne offensive. Les Vikings, la ligne offensive a fait une meilleure prestation cette semaine, mais face à une défense de Miami qui n'est pas la plus réputée en termes de pass rush, qui sortait d'une semaine... La semaine dernière, Miami en prend plus de 30 points contre les Patriots. Cette semaine, ils en prennent 40 contre les Vikings. Oui, il y a du mieux sur la ligne offensive, il y a du mieux dans le jeu au sol, il y a un apport avec le nouveau coordinateur offensif, mais je trouve que les armes ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des Eagles de l'an dernier. Donc...
Alors, en tout cas, ils ont corrigé le tir sur le jeu au sol. Tu l'as dit, 40 courses, 220 yards. Ils n'ont pas rigolé sur le retour du jeu au sol. Ils ont retrouvé un peu l'identité qu'on attendait en début de saison, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu ce gros jeu au sol avec 220 yards. Et puis, il y a eu une défense à 10 sacks. Tannehill sous pression sur plus de 50% des snaps où il a tenté une passe. Mackenzie Alexander qui est de plus en plus fort en couverture. Donc, sans être les Eagles, forcément, évidemment, c'était une comparaison un peu facile, mais est-ce que ça peut être au moins le poil à gratter de ces playoffs? Parce que maintenant, ils ont quand même de bonnes chances d'y être. Donc, ça ne va pas être une équipe facile à prendre.
S'ils arrivent à garder ce rythme-là où la défense et l'attaque arrivent à être bons en même temps, au même moment, ce qui n'avait pas été encore le cas cette saison, avec vraiment un coup la défense, un coup l'attaque, ça peut être une équipe assez emmerdante à jouer. Comme tu dis, beaucoup de pass rush, ce qui n'est jamais évident en playoffs. Si le jeu au sol en plus commence à s'installer, que Kirk Cousins a peut-être plus de passes écran à jouer, un peu moins de responsabilités aussi. Ça devient une équipe. Ça devient un peu l'équipe qu'on imaginait en la mettant première du Power Ranking d'avant saison. Donc forcément, on a envie de dire que s'ils arrivent à confirmer cette prestation-là, c'est une équipe qui va être embêtante à jouer pour la plupart des autres équipes en NFC. On y reviendra. Qui ne marquent pas forcément le pas, mais qui en tout cas sont pas rayonnantes. Il y a personne qui donne le sentiment d'ultra dominer cette conférence. Donc,
C'est ça. Si on se projette un peu, les Rams en ce moment sont pas au top, les Saints non plus, en tout cas offensivement. Donc ça peut être intéressant. Kirk Cousins, tu l'as dit, 14 sur 21, 215 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Quand il n'en a pas trop à faire et qu'il peut gérer comme ça sur une attaque équilibrée, c'est clair qu'en tout cas, ils sont intéressants. Alors c'est vrai que c'est toujours dur parce qu'on a envie de s'enflammer, c'est une belle victoire, mais c'est qu'une seule semaine aussi. Donc il va falloir confirmer, c'est toujours la difficulté. J'ai plus en tête leur prochain match, j'avoue que je suis pas mis devant les yeux. Détroit, ah bon oui, donc ça peut être une bonne occasion de confirmer en l'occurrence.
Ça peut être une bonne occasion de confirmer avant la réception de Chicago en dernière journée.
Tu vois, si tu tapes Détroit-Chicago pour finir ton année, tu peux être vraiment bien bien lancé pour les playoffs quand même.
Ouais, tu peux être sur une super dynamique. Confirmer ce qu'on a vu. Effectivement, non, c'est une équipe qui peut se remettre à flot juste à temps, quoi. Enfin, vraiment.
Se remettre à flot pour les Vikings, ils ne sont plus en galère. Vikings, flot, galère, tu vois, je te les ai toutes faites.
Ouais, je vois.
J'avais envie de faire des blagues sur les Vikings. En tout cas, belle prestation. Du côté de Miami, par contre, 193 yards seulement en attaque. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu es d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours en fait, des actions cache-misère avec cette équipe. C'est-à-dire que la dernière fois, c'était le miracle. Là, c'est une interception de Fitzpatrick, une course de 75 yards. Mais en vrai, ils sont à 2 sur 12 en troisième tentative. Il n'y a pas un seul receveur à plus de 30 yards. Et c'est une équipe qui reste quand même très médiocre, quoi.
Ouais, c'est compliqué. Bon, déjà, pour le coup, j'ai quand même envie d'excuser Tannehill quand tu prends la pression sur 50% des snaps. Oui. Ça devient quand même compliqué d'établir quoi que ce soit dans le jeu offensif. Mais comme, en fait, je pense qu'ils sont un peu à leur place. C'est pas une mauvaise équipe, c'est pas une bonne équipe. C'est cette équipe moyenne qui peut faire des coups par des big plays, comme tu le dis. Ça, du coup, ça leur permet d'arracher des matchs, mais c'est encore beaucoup trop incomplet, tendre, pour espérer quoi que ce soit de plus, quoi.
En fait, les Dolphins, depuis quelques années, c'est l'équipe Alex Smith. Tu sais, c'est l'équipe étalon moyenne.
Ouais, c'est un peu de ça, ouais.
On va passer à Rams 23, Eagles 30. Est-ce qu'on peut croire à un revival des Eagles en parlant de s'enflammer sur un match? D'ailleurs, la question, c'est peut-être ça. C'est peut-être, est-ce que ce match en dit plus sur les Eagles ou les Rams? On pose souvent cette question, mais c'est vrai que parfois, les matchs se jouent aussi un peu là-dessus.
Je sais pas sur qui elle en dit le plus. Un peu sur les deux. Je trouve quand même qu'on a une équipe de Philadelphie qui a gagné en revenant un peu à son identité de l'an dernier, en étant très fort sur les lignes. Avec une ligne offensive qui a complètement bloqué le pass rush des Rams. Et on sait que la défense des Rams, une fois que son pass rush n'est pas en action, ça devient tout de suite plus compliqué pour ses linebackers, pour ses cornerbacks et safety. Et à l'inverse, la ligne défensive des Eagles, avec Fletcher Cox notamment et Bennett, a complètement dominé la ligne offensive des Rams en mettant Goff au supplice. Donc voilà, Philadelphie a quand même retrouvé son identité de base pour gagner ce match. Est-ce qu'ils peuvent la garder sur le match d'après, espérer un faux pas des Vikings? C'est encore une autre étape, hein. Mais
Oui, il faut qu'ils gagnent les deux et que les Vikings en perdent.
Ouais, ils se réveillent peut-être un poil trop tard. Ils perdent un match à Dallas qu'à mon avis ne devaient pas perdre et ça sera peut-être là le tournant de leur saison pour le coup. Mais voilà, c'est des Eagles qu'on retrouve avec un Nick Foles pas brillant, hein, loin d'être brillant, mais qui a le mérite de pas perdre de ballon. A le mérite d'être peut-être plus précis quand même que Carson Wentz sur les passes sur les tracés extérieurs, sur les passes en profondeur, un poil plus précis en tout cas cette saison. Et voilà, c'est du coup ça suffit en tout cas à cette équipe des Eagles sur ce match.
Il y a 111 yards au sol hein, aussi, ça aide évidemment l'attaque. Bien c'est sûr, vrai que Nick Foles, il a cette capacité, visiblement, à aider. Faut rappeler quand même que l'an dernier, il avait été impeccable tout de suite. Hein, il lui avait fallu un petit temps de chauffe. Là, au moins, il a gagné dès le début. Mais comme tu l'as dit, ils ont retrouvé de la domination sur les lignes, dans le physique. Donc ça, c'est un bon point pour eux. Après, voilà, l'équation, elle est compliquée. Ils ont encore les Texans et les Redskins à jouer. Bon, Redskins, a priori, c'est jouable. Mais il faut gagner ces deux-là et espérer que les Vikings en perdent un, sachant que les Vikings jouent des Lions qui sont quand même largement à leur portée. Donc ça va être
il y a, y a Chicago en semaine 17 qui peut être le match à espérer pour les Eagles. Tu sais jamais, une équipe de Chicago avec des Saints et des Rams qui patinent un peu, peut-être que Chicago pourra encore jouer une des deux premières places.
C'est ça. Peut-être que Chicago aura de l'enjeu, donc c'est même pas dit.
Parce que Chicago, avoir l'avantage à la maison, ça peut être pas mal. En plein hiver, recevoir les gens à Chicago dans le froid, quand une grosse défense.
Oui, là, ça pourrait faire des matchs sacrément verrouillés. Du côté de Los Angeles, justement, en parlant d'être verrouillé, Jared Goff est à un touchdown et 7 interceptions en 3 matchs.
Ouais.
On en a pas mal parlé ces dernières semaines. Je crois pas que tu étais là pour en parler du coup de Jared Goff. C'était Grégory qui était pas mal inquiet.
Ouais, si, moi j'en avais parlé un de ses premiers matchs où, au contraire, je m'étais déclaré pas trop inquiet parce qu'il sortait de bye week.
Ah oui, c'est ça. Ouais,
effectivement, ça commence à être un poil plus inquiétant après 3 matchs. Il est juste pas bon, il manque des receveurs ouverts, il est pas précis. Ça arrive un peu au plus mauvais moment.
Il y a une erreur de lucidité sur l'interception qui est assez terrible aussi.
Ouais.
Il panique complètement.
Ouais, c'est ça. Du coup, c'est vrai que je comprends pas très bien ce qui a pu se passer. Oui, il y a l'absence de Cooper Kupp, mais bon, j'ai pas non plus l'impression qu'elle soit si.
Et puis le problème, c'est que pour un mec qu'on nous a vendu comme un potentiel MVP à un moment de la saison, il est pas censé s'écrouler parce que Cooper Kupp est plus là, quoi.
Ouais, bah oui, non, je te rejoins globalement dessus, donc. C'est un peu un mystère. Je trouve quand même que McVay, là, depuis 2-3 semaines, insiste trop sur la passe, pas assez, ou le jeu au sol. Là, on a encore.
Alors, tu l'as peut-être pas vu, justement, j'allais te le dire, mais juste avant qu'on prenne l'antenne, il y a ESPN qui a publié des déclarations de Sean McVay qui disait justement que les choix de jeu étaient beaucoup influencés par le fait que Todd Gurley est un peu blessé.
Oui, c'est vrai aussi que ça aide. Ce qui prouve aussi que Todd Gurley est vraiment la pièce maîtresse de cette attaque, que son état conditionne tout le reste et le plan de jeu. Et il a quand même intérêt à vite sortir de sa blessure, parce que si du coup son état physique fait que ça oblige les Rams à lancer 50 ballons par match, avec une défense qui ne crée pas de turnover, ça va commencer à être compliqué d'aller chercher quelque chose en playoff, quoi.
C'est ça le problème, clairement, c'est qu'en plus leur défense, elle reste quand même très très malléable et très irrégulière, quoi.
Leur défense ne vit que par les turnovers, donc s'il n'y a pas un strip sack d'Aaron Donald, s'il n'y a pas une interception de Peters, elle prend des yards, elle encaisse, donc et comme on sait que les turnovers, c'est pas de la chance, mais il y a toujours un ballon qui peut rebondir bien, il y a toujours une part d'inexplicable et d'inattendu dans le turnover, et forcément si t'es plus en difficulté pour compter dessus, ça devient plus compliqué pour la défense de Wade Phillips.
Alors j'espère que je dis pas de bêtises parce que j'ai vu passer la stat très vite fait tout à l'heure, mais je crois que sur les 6 dernières semaines, les Rams sont l'équipe qui prend le plus de points et les Saints l'équipe qui en prend le moins. J'ai vu passer ça, donc c'est pas anodin aussi dans ce qui se prépare pour les playoffs en NFC. J'espère juste que les Rams sont pas en train de nous faire une Chiefs ou une de ces équipes qui s'écroule après un début de folie et qui se. Parce ouais. que c'est ça, il faut tenir sur la durée, et c'est pas toujours facile. Et tu parlais de la défense et de la couverture aérienne. Akib Talib a quand même beaucoup souffert. On n'a pas mentionné Alshon Jeffrey qui sort quand même un match en 160 yards. Ça aussi, ça aide Philadelphie à sortir un peu de sa torpeur. Mais à surveiller ces deux équipes qui vont être très intéressantes hein, quand même sur la fin de saison. Philadelphie encore un petit espoir. Et puis les Rams, ils arrivent quand même sur les playoffs d'une manière un petit peu chancelante. Steelers 17, Patriots 10. La question qu'on pourra nous reprocher dans un mois, est-ce que ça sent la fin de la dynastie Patriots ?
Est-ce que ça sent la fin de la dynastie ?
Alors, je te donne des stats pour étayer. Première fois depuis 2009 qu'ils perdent plus de 4 matchs dans une saison. Première fois depuis 2002 qu'ils perdent 2 matchs de suite en décembre. Première fois depuis 2009 qu'ils ont un bilan négatif à l'extérieur.
Non, mais manifestement, c'est la moins bonne équipe des Patriots depuis plusieurs années. Ça, c'est une évidence. On a déjà eu un peu le temps de le mentionner par-ci par-là, où on trouvait notamment que ça manquait de talent pur en défense, de vraiment skill player. Je continue à le penser. Là, je trouve que sur ce match, ils prennent pas beaucoup de points contre les Steelers parce que, à mon avis, de l'autre côté, tu as un Big Ben très moyen. Mais sincèrement, la défense est quand même bien fait balader par le jeu au sol des Steelers.
142 puis, yards pour Jalen Samuels.
Ouais. Et puis, en attaque côté Patriots, il y a plusieurs choses qui vont pas. Hein. Une fois que l'attaque arrive en red zone, ça devient très compliqué. Elle avance plutôt bien. Mais alors, dans la zone de vérité, dans les 15 derniers yards, c'est vraiment très mauvais. Enfin, c'est mauvais ce qu'ils proposent. Tom Brady, là, sur le dernier drive, les 4 dernières passes sont juste mauvaises. Elles sont inattrapables par personne. Je veux dire, Et c'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude de voir Tom Brady se rater comme ça sur un dernier drive. Si on le voyait rater, c'est ses receveurs qui droppaient ou ça jouait à peu. Mais là, les passes sont juste mauvaises. Il a des erreurs de lecture. Il évite vraiment au maximum. Il lance très vite pour éviter un maximum de contact. C'est Charles Woodson, hein, je crois, qui.
Alors, c'est ce que j'allais te dire. On a Charles Woodson qui dit Brady est moins tranchant, il sent la pression venir, etc. On a Damien Woody, ancien lineman, qui dit Gronk est plus le même, c'est plus que l'ombre de lui-même. Il y a beaucoup de choses hein, qui tombent sur cette équipe de New England ces derniers jours sur les consultants. Plutôt d'accord avec ça.
Moi, je sais pas si c'est ce qui va arriver tout de suite aux Patriots et à Tom Brady. Maintenant, je sais pas si c'est le cas pour Tom Brady, mais je crois beaucoup à ce que Woodson disait, que en NFL, la dégradation est presque instantanée en fait. C'est que tout d'un coup, tout arrive, tout se ressent, les chocs, machin, et que tu peux vite perdre de niveau d'un coup sans même l'avoir anticipé. Et ça, je pense qu'effectivement, ça, tu peux. Te retrouver avec un Tom Brady qui tout d'un coup baisse en régime et qui n'est plus suffisant pour porter des Patriots qui sont peut-être en manque de talent à plusieurs niveaux. Donc, après de là dire que la dynastie Patriots se termine, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas, je ne les ai jamais vus aussi prenables depuis une dizaine d'années.
C'est vrai.
Là, je pense que s'ils ne sont pas pris cette année,
Non, c'est vrai qu'ils ont l'air prenables. Alors, ceci étant dit, évidemment, on remercie d'avance les supporters des Patriots qui reviendront vers nous d'ici la fin du mois de janvier, si tout se passe bien pour leur équipe.
Ouais, bah bien sûr, ouais.
Voilà, on a douté d'eux, on a voulu faire exprès de mettre le doute et on était contre eux. Non, mais je plaisante. Mais voilà, après, tant mieux pour eux s'ils reviennent, hein, évidemment. Mais c'est vrai que là, ça semble pas super pour cette attaque. Et c'est vrai que Brady est moins tranchant. C'est vrai que le Gronk est plus le même, a priori. On n'est pas à l'abri que ça revienne au mois de janvier, mais sur ce qu'on voit actuellement, c'est compliqué. Ceci étant dit, les Steelers sont-ils vraiment beaucoup plus rassurants ?
Ah non. Enfin,
en défense. Il y a en défense quand même, il faut leur rendre ce qu'il y a. Ils ont quand même été efficaces, ils ont bien blitzé, ils ont bien géré les prises à deux. Il y avait un bon plan de jeu aussi.
Il y avait un très bon plan de jeu. Pour une fois, ils ont fait beaucoup. Souvent, ces dernières années, ils affrontaient les Patriots avec beaucoup de couverture de zone. Ils se faisaient manger dans les inter-espaces par le Gronk, tout ça. Là, ils ont fait beaucoup de couverture homme à homme. Ça leur a bien réussi. Il y a un TJ Watt qui est très très bon en termes de pression, qui a constamment qui a mis à mal complètement Marcus Cannon et mis Brady sous pression constante. Après, moi, j'en tire toujours un peu la même analyse de ces Steelers. C'est que sur ce match-là, ils font les choses très bien globalement. Ça va dans le bon sens. Mais je ne suis pas certain que la semaine prochaine, ils n'aillent pas se vautrer de manière un peu plus inexpliquée. Et je trouve quand même que Ben Roethlisberger est pas. On parlait de Brady, mais je le mets un peu dans le même case. Hein. Franchement, il y a des lancers mauvais, il y a des imprécisions, il y a des interceptions encore toutes bêtes.
Bon. Ça va être intéressant. On va parler d'autres équipes après, mais j'ai l'impression que c'est une des premières années, en effet, comme tu disais, depuis quasiment 10 ans, où les Patriots et les Steelers vont probablement aller en playoff, mais ils n'y arriveront pas favoris. Et ils n'auront pas l'avantage du terrain et ils vont galérer. Et on en reparle justement juste après une petite pause parce qu'on va parler de ceux qui sont au-dessus.
Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Les équipes qui sont au-dessus dans l'AFC, justement, ce sont les Chiefs et les Chargers. 28 pour les Chiefs, 29 pour les Chargers. Les Chargers sont qualifiés, ils sont à égalité avec les Chiefs en tête de l'AFC. Alors pour l'instant, Kansas City reste devant à la faveur d'un meilleur bilan de division. Mais on a quand même une conférence AFC qui est en train de devenir sacrément intéressante avec deux équipes de la même division en tête. Et les Chargers, qui mine de rien, sont en train de devenir un des prétendants très sérieux au titre, Raphaël.
Ouais, ils sont un des prétendants très sérieux au titre. À mon sens, depuis pas mal de semaines maintenant, c'est même l'équipe la plus équilibrée de la ligue. Je dirais avec vraiment, avec sur le long terme, une top 10 attaque et une top 10 défense. Enfin, les deux unités, quel que soit le côté du terrain, font vraiment partie des meilleures de la ligue. Et c'est une des rares équipes d'ailleurs dans le top, toute conférence confondue, qui à mon sens est aussi bonne des deux côtés du terrain. On a Philip Rivers qui sort vraiment une très très grosse saison. Il y a encore là comment il fait revenir son équipe dans les derniers instants. Ils arrivent à s'en sortir malgré les blessures de Melvin Gordon et Austin Ekeler au jeu au sol. Donc ça prouve à quel point vraiment tu as une équipe qui est bien rodée. Le plan de jeu permet même de s'en sortir sans ses coureurs principaux.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. 119 yards au sol sans leurs deux coureurs titulaires, c'est pas mal. Hein.
Ouais, c'est ça. Parce que t'as un bon game plan, t'as une ligne offensive qui est bien meilleure que les années passées, qui permet à des coureurs de s'en sortir un peu mieux. T'as une menace aérienne qui est telle que voilà, ça ouvre aussi des brèches mécaniquement au jeu au sol. Franchement, c'est une des bonnes surprises de cette saison. Clairement, moi, je les voyais pas aussi haut. Donc ouais, c'est une équipe très équilibrée, restera à voir une fois en playoff parce qu'ils y sont là, c'est sûr.
Ouais, j'ai envie de dire que ça sent la saison ou jamais pour Philip Rivers un peu.
Ouais.
Parce qu'il y a super équipe et il y a quand même montée en âge, donc ça sent la grosse occasion. Alors excusez-moi, hop là, je sais pas si vous l'entendez à l'antenne, il y a une pub qui a démarré sur le site où je consultais les stats. Donc oui, non, mais ça sent ça. Après, du côté des Chiefs, on va pas revenir sur l'attaque. Alors même si on peut, eux aussi, hein, il y a une gestion à faire du côté des coureurs. Là, c'est Damien Williams qui a eu 10 ballons pour 49 yards. Ils ont gagné que 60 yards au sol. Donc il y a l'absence de Kareem Hunt quand même qui va se faire ressentir par moment.
Oui, non, mais c'est sûr, quand tu perds un joueur aussi talentueux qui vraiment participait à un peu tout, qui était une pièce centrale de cette attaque. Il y a forcément un temps d'adaptation. Et puis, ils ont, même au-delà de l'adaptation, ils ont juste des coureurs qui n'ont pas son talent. Donc, ça va avoir un impact, c'est sûr. Après, à eux de maîtriser le mieux possible, quoi. Enfin,
j'allais surtout te parler de la défense, en fait, qui commence bien le match. Ils autorisent que 7 points sur la première mi-temps, qui coïncide avec le retour d'Eric Berry. Donc, est-ce que c'est quand même pas un motif d'espoir, ce match, au sens où Berry a pu jouer que la première mi-temps, il était ménagé la deuxième, il faut espérer qu'il va monter en puissance en play-off, évidemment, parce que s'il joue que des mi-temps, ça sert à rien, ou peu. mais c'est quand même un motif d'espoir, parce qu'il était bon sur cette première mi-temps.
Ah ouais, c'est un motif d'espoir. Bah, c'est quand même un joueur qui, quand il est en forme, est un des meilleurs safety de la ligue, qui a une vraie intelligence de jeu, un sens du placement qui est assez exceptionnel. Forcément, c'est toute cette équipe. Donc, comme tu dis, c'est un bon motif. Moi, je pense vraiment qu'il va revenir progressivement. Il y a encore deux matchs de saison régulière avec des Chiefs déjà qualifiés, même s'il y a l'enjeu pour la première place de division, parce qu'eux aussi, à mon avis, ont quand même très envie de jouer à Kansas City en plein hiver. Il va apporter quelque chose à cette équipe, c'est sûr et certain, et ça fait un joueur de toute façon, t'as jamais assez de joueurs de talent dans une défense, donc je veux dire, à partir de là, mécaniquement,
On continue sur les matchs de la conférence AFC. Je vous explique un peu l'ordre pour une fois des débriefs, mais maintenant on est parti dans conférence par conférence, course au playoff, et puis on finira sur les matchs qui avaient vraiment aucun enjeu. Ravens 20, Buccaneers 12, 242 yards au sol pour les Ravens, 5 matchs de suite à plus de 190 yards au sol. C'est du jamais vu depuis des Steelers en 1976, hein, pour dire à quel point ils courent quand même cette équipe de Baltimore. Ils sont à 4 victoires en 5 matchs avec Lamar Jackson, et du coup, bah, cette recette défense plus gros jeu au sol, on bourrine dans tous les sens. Pour l'instant, ça continue de fonctionner.
Ah bah c'est une recette presque archaïque avec autant de jeux au sol. Le côté novateur, c'est que le quarterback court plus. Ça, c'est sûr que je pense pas que les Steelers dans les années 70 faisaient autant courir leur quarterback. Mais mais c'est comme tu dis, c'est une recette qui fonctionne merveilleusement, en exagérant pas, mais qui fonctionne vraiment très bien pour Baltimore. On l'a déjà évoqué. À l'heure actuelle, Lamar Jackson permet aux Ravens d'être meilleurs de manière globale et notamment en attaque. Pour le moment, ça leur permet de maîtriser le tempo, d'avoir une défense qui passe pas trop de temps sur le terrain et qui du coup peut être ultra performante, ultra agressive. Les clés sont là. Je sais pas jusqu'où ça peut aller d'avoir un... Parce que là, sur ce match, pour le coup, j'ai trouvé Lamar Jackson dans ses passes pas très bon. Il a été quand même très peu inspiré à la passe.
Mais il a que 131 yards gagnés à la passe en 14 passes, donc c'est quand même pas grand-chose. Et puis tu l'as dit, c'est archaïque au sens où il y a 49 courses pour 23 passes, donc c'est pas tout à fait la NFL version 2018, Révolution, Sean McVay, Kansas City, tout ça. Et ils ont 37 minutes, je crois, ouais, 37 minutes 10 de possession. Donc clairement, en effet, il va pas falloir qu'ils tombent sur une équipe qui prend 14 points d'avance dans le premier quart-temps, quoi.
Ouais, c'est un de leurs risques, effectivement. S'ils doivent aller chercher le score, ils pourront difficilement le faire qu'en misant sur le jeu au sol, ou en tout cas autant. Donc ça exposera forcément plus Lamar Jackson. À voir.
Ouais, ça va être le risque, mais il faudra voir. Pour l'instant, en tout cas, ils se dirigent vers les playoffs avec cette méthode-là. Et du côté de Tampa, on s'approche évidemment plutôt de la draft. Alors, on est en train de réfléchir à des choses sur le site. Vous retrouverez peut-être assez rapidement au mois de février une sorte de preview de l'intersaison équipe par équipe. Enfin, on est en train de voir si on fait équipe, division. Il y a beaucoup d'idées qui circulent dans la rédac. On va mettre tout ça. Donc, on parlera un peu plus de ces équipes-là d'ici la fin de l'année. Mais Tampa, pour la stat, c'est 12 points en deuxième mi-temps depuis la semaine 12. C'est-à-dire qu'ils calent complètement après la pause. Là, ils étaient à 9. Ils étaient à 9 points à la mi-temps, ils ont mis 3 derrière. Et Jameis Winston qui continue, bon an, mal an, son petit bonhomme de chemin pour essayer de garder sa place, quoi.
Ouais, c'est ça. Plus grand chose à dire de plus que ce qu'on a déjà dit sur cette équipe de Tampa Bay. Hein,
ça sent le ménage, notamment au poste de coach quand même. Il faudrait.
Ouais, ça paraît
repartir
évident,
du bon pied.
Ouais.
Jets 22, Texans 29, deux équipes qui avaient du mal à protéger le quarterback, c'était samedi soir. Au final, Sam Darnold n'a pas réussi à sortir le drive qu'il fallait en fin de match, mais ils ont quand même été accrocheurs, ces Jets, ces deux équipes qui ont eu du mal à protéger le quarterback, hein. On a vu quand même beaucoup de pression dans ce match.
Et ce qui est un peu étonnant, parce que ces dernières semaines, la ligne offensive de Houston était bien meilleure et donnait plus de temps à Deshaun Watson pour lancer, etc. Là, elle est un peu retombée dans ses travers. À surveiller, parce qu'il ne faudrait pas que l'embellie se termine à l'arrivée, à l'entrée des playoffs, j'ai envie de dire, pour les Texans. Donc ça, c'est à surveiller du côté de leur ligne offensive. Après, ouais, une équipe des Jets accrocheuse. J'ai trouvé un Darnold vraiment plaisant sur ce match, avec des beaux lancers, des bonnes lectures, tout ça. Donc deux équipes qui se...
Il fait un beau match d'Arnold, c'est juste qu'à la fin, il est à deux doigts. Moi, l'action m'a fait sourire, mais le pauvre, il est à deux doigts de lancer la pire interception de la semaine. Je crois quand il se fait saquer par Watt et qu'il balance une saucisse en l'air, mais alors n'importe comment. Quelle idée tu as de vouloir lancer alors que tu es aux trois quarts par terre avec JJ Watt sur ton bras. Mais en dehors de ça, je suis d'accord avec toi, il fait un bon match. Il est stoppé sur les deux derniers drives, mais il y a de la pression. Ça reste prometteur pour la suite, quoi.
Ouais, ça reste prometteur pour cette équipe des Jets qui elle aussi devra peut-être réfléchir à un changement de coaching pour maximiser, on va dire, le potentiel de Darnold et de cette équipe. Mais voilà. Et côté Houston, c'est une victoire comme d'hab. Hein. Ils continuent à gagner même quand on n'est pas forcément convaincu. Mais bon.
Et tu l'as dit, alors en plus, ils n'avaient pas de jeu au sol sur ce match. C'est ça qui leur a fait mal par rapport à d'habitude, où ils arrivaient à trouver un jeu au sol ces dernières semaines. Là, ils sont à 17 courses, 47 yards. Lamar Miller sort blessé, hein, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il n'a que 3 courses pour 8 yards. Enfin voilà, ça a été compliqué pour eux. Au final, leur meilleur coureur, c'est DeSean Watson. Et Watson, tu l'as dit, qui prend 6 sacs pour 55 yards perdus. Donc ce sera quand même à surveiller, en effet, dans l'optique des playoffs. Mais mine de rien, ils sont à 10 victoires, 4 défaites. Et ils pourraient peut-être arracher une semaine de repos si jamais San Diego, bah San Diego Los sont... Angeles, les Chargers se trébuchent ou les Chiefs.
Ils sont numéro 2 à l'heure actuelle, non?
Ils sont numéro 2 de toute façon, ouais, parce que les Chargers peuvent pas être 2, ouais.
Ouais.
Ouais, oui, donc oui.
Ils sont numéro 2 déjà à l'heure actuelle, hein. Donc effectivement, ils ont un enjeu de ce qui serait une surprise absolument énorme à mon sens, parce que je suis pas sûr que beaucoup avaient vu les Texans numéro 2.
Clairement. Clairement, non. On va pas mentir, on va pas faire les beaux. Là, avant ça, on l'attendait pas. Ça, on l'attendait pas. Colts 23, Cowboys 0. Matt Eberflus, retenez bien son nom, c'est le coordinateur défensif des Colts. Et c'est un ancien coach des linebackers des Cowboys qui a fait la misère à son ancienne équipe. Il a trouvé des bonnes solutions. C'est vraiment un gros match défensif. Hein, 178. Alors, ça, c'est. Pardon, je me gourre de stats. Ça, c'est leur stat au sol. Mais grosse défense des Colts avec, encore une fois, un Matt Eberflus qui fait du gros boulot.
Ouais, gros boulot avec un groupe très jeune globalement, très dynamique, athlétique. Vraiment, sur certaines actions, j'avais l'impression de voir les linebackers d'Indianapolis déjà sur les joueurs des Cowboys, quasiment au moment du snap, quoi. Vraiment, une réactivité assez incroyable qui a permis de complètement bloquer le jeu au sol et même le jeu aérien des Cowboys. Donc, c'est une grosse prestation des Colts sur laquelle ils doivent vraiment continuer de construire pour potentiellement les playoffs si une des équipes devant eux font un faux pas, mais même franchement pour l'an prochain, il y a une telle dynamique autour de cette équipe et là défensive avec des jeunes joueurs Darius Leonard, Denico Autry qui a 25 ans, il tresse le safety Malik Hooker,
ouais. Quand tu dis jeune, athlétique et dynamique, déjà c'est une victoire parce qu'on n'avait pas entendu ça d'une défense des Colts depuis un bon moment.
Bah c'est ça, là tu commences vraiment à avoir quelques gros talents sur ces... Il y a le rookie Tycon Smith qui commence un peu à se montrer, qui a 2 sacks sur ce match. S'ils arrivent à garder cette dynamique, en plus ils ont beaucoup de masse salariale l'an prochain, enfin bref, ils peuvent devenir une des grosses défenses de l'AFC et donc même aller là, faut voir hein, si les Ravens vont se planter ou les Steelers, mais en playoff, si la défense arrive à garder ce rythme et avec une attaque des Colts qui trouve un jeu au sol avec Marlon Mack, ça commence à être une équipe. Et puis
les Colts jouent Giants et Titans hein, pour finir la saison, donc c'est à leur portée.
C'est à leur portée, ouais.
Il y a quand même possibilité de les retrouver en playoff. Et après, on parlait beaucoup de la défense. Là où c'est important, et on en revient toujours à ça, j'ai l'impression, au mois de décembre, mais ils gagnent le combat sur les lignes parce que Ryan Kelly, le centre, est de retour. La ligne offensive va mieux. Ils gagnent 178 yards au sol au total avec un Marlon Mack qui devient un coureur en plus patient et efficace. Et ça devient une équipe clairement dangereuse. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et du côté des Giants, par contre, c'est une petite déception pour une équipe qui enchaînait les victoires.
Des Cowboys,
j'ai dit Giants, autant pour moi. Des Cowboys, on y viendra après, ils sont juste après. les Cowboys, oui, qui sont... alors, ils sont dépassés, en fait, toute leur victoire cette saison, c'est contre des quarterbacks assez mobiles qui peuvent justement un peu sortir de la poche. Est-ce que ça prouve un peu des soucis en couverture, notamment quand il faut tenir longtemps, peut-être?
Ouais, il y a un peu de ça, effectivement, avec peut-être quand même une escouade de cornerbacks qui, jusque-là, pas surperformé, mais qui avait un très haut niveau parce qu'elle avait un pass rush capable aussi de très vite bloquer le quarterback adverse. Donc forcément, en laissant un peu plus de temps, ça devient plus compliqué pour eux. Après, moi, certains vont dire que je martèle, c'est peut-être du bashing facile, mais je pense que ce match aussi, c'est un peu l'illustration du problème que pourra poser Jason Garrett en playoff à cette équipe. C'est-à-dire que quand le scénario ne se déroule pas comme prévu ou pas bien, que les Cowboys n'arrivent pas à être rapidement en tête, à avoir Ezekiel Elliott qui porte la balle, fait descendre le chrono, et que ça demande du coup au coaching staff de trouver d'autres solutions, de s'adapter, de changer son game plan, j'ai l'impression de voir encore une fois un Garrett très passif, qui attend, qui ne sait pas trop quoi faire. Et ça, à mon avis, en play-off, les scénarios prévus d'avance en play-off, ça arrive rarement. je pense que ça leur coûte. Pour moi, ce match, c'est un peu l'illustration de ça. Ça se passe pas comme prévu et Garrett qui est pas capable de trouver les solutions et ça risque d'arriver un peu plus tard.
Giants 0, 0, Titans 17, les Titans qui restent aussi en course dans l'AFC. 170 yards de plus pour Derrick Henry, qui est vraiment le franchise player de cette équipe maintenant. C'est lui le moteur, hein, c'est pas Mariota.
Ouais. Oui, bah, c'est presque pas surprenant, tant Mariota nous a quand même pas habitués depuis plusieurs saisons à porter vraiment cette attaque des Titans. Derrick Henry qui va vraiment mieux depuis la bye week.
Qui a dit, hein, que pendant la bye week, en fait, il avait étudié toutes les vidéos des premiers matchs, il avait regardé ce qui allait pas et il a fait exploser ses stats depuis. Donc, comme quoi, il faut regarder de la vidéo.
Ouais, non, mais bien joué à lui. Et du coup, bah, c'est une équipe des Titans qui, en termes de physionomie, ressemble un peu à ce à quoi on s'attendait. Une défense qui est globalement solide, du jeu au sol avec une bonne ligne offensive, et puis Mariota qui minimise les erreurs, qui scramble de temps en temps un peu pour échapper à la pression.
Il a une fiche qui est indigente, il a 12 sur 20 pour 88 yards.
Ouais, bah c'est... Il en a sorti plusieurs, hein, des fiches comme ça depuis pas mal de temps. Hein. Franchement, avec très peu de yards gagnés dans les airs. Bon, voilà.
Mais ils dominent physiquement, en fait. Hein. Ils dominent physiquement en défense, ils dominent physiquement au sol maintenant que Henry est régulier. Du coup, ça les porte. Pour les Giants, c'est un petit retour sur terre. C'est la deuxième fois en un an qu'ils sont à 0 point. 31 yards en 14 courses seulement pour Saquon Barkley, qui a 2,2 yards par course. Et puis, du coup, Eli, qui n'a pas été fabuleux, à 21 sur 44, 229 yards d'une interception. C'est un peu retour à la mi-saison, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est retour en mi-saison, début de saison, où t'as pas grand chose qui fonctionne. En défense, il y a toujours pas de pass rush. Enfin, ça commence à être vraiment ennuyeux de pas être capable de mettre le quarterback adverse au sol, parce que voilà.
Ne t'en fais pas, Eli Manning aura une nouvelle chance l'an prochain, visiblement.
Ouais, bon, écoute, un peu. ça ne devient plus mon problème, donc j'ai décidé.
Ah, tu te désolidarises au fur et à mesure.
Ouais, c'est bon. Je suis pas assez fan pour m'infliger ça, en fait, tu vois.
Tiens, c'est marrant. Alors, j'ai eu la discussion. C'est un autre sujet, on fait un aparté, mais j'ai eu la discussion avec Loïc, qui était là pour le fauteuil la dernière fois en off. Et on se disait, justement, c'est vrai qu'on n'est pas non plus... des fois, c'est tout à leur honneur, hein, mais certains fans qui s'infligent des trucs horribles et qui restent avec leur équipe, même si... Je disais, des fois, ça doit être un amusement. Tu peux aussi choisir une équipe dont le jeu te plaît et puis changer, quoi, si t'habites pas dans la ville ou que t'es pas né avec,
avec après... le truc.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Après, non, bon. Mais c'est ça, chacun ses attachements, mais je suis pas assez fan des Giants pour clairement continuer à avoir une année d'Eli Manning lancer des saucisses.
Ça va tourner, ça tourne pour tout le monde. Ouais. Broncos 16, Browns 17, 4 victoires en 5 matchs, les Browns sont toujours vivants dans la course au playoff. Et j'ai envie de dire, Raphaël, c'est quand même, ça devient quand même un sacré plaisir de voir cette équipe jouer.
Ouais, ça devient un plaisir grâce à ses rookies notamment, un Baker Mayfield encore assez explosif. Voilà, c'est une équipe qui, tu le dis, devient plaisante, a de plus en plus d'armes et ça commence à se ressentir. Il y a toujours des petits défauts, il y a un manque de profondeur sur pas mal de postes, mais ils sont encore en course en playoff, ce qui n'était pas forcément le but dès cette saison. Donc
Il leur faudrait beaucoup, beaucoup de choses, hein, pour être en play-off. Ça va être
oui, voilà. Compliqué. Mais mathématiquement, ils ne sont pas encore éliminés. Ça fait des années qu'ils sont éliminés dès la semaine 10 quasiment de la course au play-off. Donc,
ah
tu
oui,
vois,
clairement. Clairement, déjà, c'est une victoire. Est-ce que tu étais d'accord avec le field goal tenté à 5 minutes de la fin par Vance Joseph? Je sais que tu aimes bien les coachs agressifs. 4e et 1, terrain adverse. 4 points de retard, du coup, c'est ça?
Ouais.
Et il prend le field goal.
Oui, non, je trouve ça dommage. Hein. À mon sens, il aurait dû y aller. Il a quand même du jeu au sol pour essayer. Après, c'est un Vance Joseph qui est quand même peu inspiré depuis 2 ans à Denver. Donc, je suis même plus étonné, quoi.
C'est une équipe qui est complètement en transition quand même. Il y a,
Ouais.
il y a un ménage à faire. On ne sait pas s'ils veulent aller vers la jeunesse ou vers gagner maintenant, là, au point où ils en sont.
Bah, c'est compliqué parce qu'ils ont ils ont quelques arguments pour aller dans un sens ou dans l'autre, j'ai envie de dire. Donc, ouais. Bon.
Ah, le problème, c'est qu'il manque peut-être. Kinom, il est sympa, mais ça,
oui.
c'est un peu border. Bon, en tout cas, rassurons-nous. Hein, y a des rumeurs comme quoi ils ont parlé à Mike Shanahan l'an dernier. Peut-être qu'ils vont le faire revenir. Visiblement, John Fox et Jeff Fisher n'étaient pas disponibles. Donc, ils sont allés encore plus loin chercher Mike Shanahan. Panthers 9, Saints 12. On passe en NFC avec les Saints qui sont toujours, je vais dire une bêtise, une ânerie. Non, ils sont leaders. Oui, ils sont leaders. Je m'embrouille toujours sur les classements. Bon, Cam Newton a l'air au bout de sa vie quand même, non?
Ouais, je pense que sa blessure physique est plus grave que ce que les Panthers laissent entendre. À mon avis, il joue vraiment serré les dents parce que ça ressemble tellement pas à son début de saison que et à ce qu'il est capable de faire. Enfin, je veux dire, il a quand même fait une saison MVP.
Il l'a avoué un petit peu là il y a quelques heures. On vient de le publier sur le site. Il l'a dit en conférence de presse. Il a dit c'est même en mettant de la glace, même en prenant des anti-inflammatoires,
ouais, voilà.
Ça me gêne, c'est tendu, j'y arrive pas. Et alors il disait en fait ça n'empire pas, mais ça fait des semaines que ça ne bouge pas en fait. C'est gênant,
ouais,
c'est tendu. Il disait j'ai essayé l'acupuncture, tout ce que vous voulez, ça bouge pas. Voilà, et on lui avait dit apparemment après l'opération qu'il fallait du temps. Voilà, mais clairement, ça se voyait, donc il peut l'avouer maintenant parce que c'est tellement évident que voilà, ils sont perdus là-dessus. Maintenant, ils sont à 6-8. Faudra un miracle.
Faut le mettre sur le banc
mathématiquement, mais il faut un miracle. Il y a plus Christian McCaffrey en attaque, c'est la satisfaction de l'année.
Oui, c'est la satisfaction de l'année, comme tu le dis, parce que certains avaient des doutes sur le fait qu'il puisse porter un peu l'attaque des Panthers, qu'on puisse lui donner beaucoup de portée, qu'il puisse aussi, tout en ayant beaucoup de ballons à la course, qu'il puisse continuer à être influent sur le jeu de passe, et il continue à le faire cette saison. Donc là-dessus, il y a vraiment un très très beau boulot fait par lui-même, mais aussi par North Turner, le coordinateur offensif de l'équipe, pour utiliser tout son potentiel, voire même plus. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Après, faut juste là maintenant, faut envoyer Cam Newton au repos parce que la saison elle est foutue. Donc,
il n'a pas eu de chance parce qu'il tombe sur une défense des Saints qui enchaîne quand même un quatrième match sur les six derniers en maintenant l'adversaire à moins de 300 yards. Ça, c'est en train de devenir un sacré atout cette défense des Saints.
C'est en train de devenir un sacré atout, d'autant plus que l'attaque patine, mais stagne à un niveau pas terrible depuis 2-3 semaines. T'as encore un très petit match de Drew Brees, un jeu au sol qui a quelques fulgurances, mais qui n'est pas constant. Donc ça, oui, si les Saints peuvent, en plus de leur attaque qui peut exploser à tout moment ou revenir à bon niveau, profiter de cette défense, mais moi je le dis depuis pas mal de semaines, hein, le fait qu'ils défendent aussi bien contre la course, ça me semble être un élément vital pour aller très loin en play-off, et je pense que ça peut leur permettre vraiment d'aller très très loin, maîtriser comme ça le jeu au sol adverse, maîtriser le chrono, donc ça peut être que...
Oui, vas-y, fini.
Ouais, ça peut être que du bon, et alors en plus, quand Eli Apple arrive à faire des interceptions, là, ça devient...
Non, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'en attaque, il souffre aussi peut-être des absences de Teron Armstead et Max Unger sur la ligne. Et donc, ça aide pas Drew Brees. Et il y a un 4 sur 13 en troisième tentative qui, du coup, leur a fait mal. Et on a quand même vu le très, très rare pick two, qui est l'interception sur conversion à 2 points, retournée par la défense dans la end zone adverse pour 2 points. Donc, c'est bizarre parce que du coup, c'est un touchdown, mais tout le monde marque des points. Il y a 6 d'un côté, 2 de l'autre.
Ouais, moi, je suis vraiment pas fan de ce truc-là. Moi, pour moi, ça fait vraiment...
Et alors, j'avais jamais réalisé, mais un jour, ça pourrait nous faire un scénario dramatique, tu sais, avec une équipe qui égalise en fin de match, qui tente, enfin, tu sais, qui se rapproche en fin de match, qui tente une conversion à 2 points, soit pour gagner, soit pour égaliser, et avec l'équipe d'en face qui intercepte et retourne et qui gagne comme ça, ou un truc, ça pourrait être fun. Hein.
Ouais.
Ça pourrait être incroyable. Ou tu sais, ou alors ils ont pris un point d'avance, je sais pas, faudrait trouver un truc comme ça, mais
ouais,
ça peut faire un scénario.
J'accroche pas trop au principe, mais.
C'est assez particulier. C'est assez particulier. Je ne sais pas si j'ai un avis là-dessus. Parce que, après tout, tu vois, si tu donnes plus de poids au kicker sur l'extra point, pourquoi pas le retourner dans l'autre sens?
Non, mais pour moi, c'est juste, c'est toi qui viens de marquer. Je vois pas pourquoi tu prendrais des
points
sur un touchdown que tu viens de marquer. Quoi. Enfin, je veux dire,
non, ouais, c'est bizarre. Quoi qu'on en dise, c'est vrai que c'est particulier. Bears 24, Packers 17. Les Packers ne joueront pas les playoffs. Pas un bon match d'Aaron Rodgers. Il y a des lancers manqués. Il n'y a pas de touchdown. Il y a 2 interceptions. Il y a 5 sacks. C'est une saison vraiment à oublier pour Green Bay, même s'il y a des stats qui sont ronflantes sur le papier, ça reste une saison à oublier.
Ouais, c'est ça. C'est saison à oublier offensivement notamment. Parce que la défense, malgré tout, je trouve, il y a des choses bien. Il y a le cornerback rookie dont le nom m'échappe là.
Jair Alexander, non ?
Ouais, c'est ça. Qui fait vraiment une belle saison, qui peut être une des pièces maîtresses de la défense dans les années à venir. Donc ce côté-là du ballon, on a peut-être retrouvé une bonne dynamique côté Green Bay, ce qui n'était pas le cas ces 2-3 dernières années forcément. Mais comme tu dis, en attaque, c'est tout. Beaucoup de choses sont à oublier. Bon, bah, de toute façon, il va y avoir un nouveau coach, a priori, à l'intersaison.
C'est pas plus mal qu'ils aient perdu et qu'ils perdent la fin de saison, parce qu'il valait mieux pas que Joe Philbin fasse un coup pour prendre le poste. Donc, comme ça, ils sont tranquilles. Du côté des Bears, bon, pas de surprise, ils vont être durs à jouer en playoff. Ça va être même très très dur à jouer en playoff, surtout s'ils ont l'avantage du terrain.
C'est ça.
La défense est féroce. Khalil Mack a encore 2,5 sacks. Et Mitchell Trubisky, quand il fait des bons matchs, du coup, là, il est à 20 sur 28, 235 yards de touchdown. Ils vont être costaud à jouer, quoi.
Ouais, ils vont être très chiants à jouer parce qu'ils ont même un jeu au sol qui est capable de tenir la balle. On l'a encore vu, là, Tariq Cohen fait un superbe match. Il peut aussi être dangereux sur des retours de coups de pied, de punt, etc. À surveiller peut-être la petite entorse à la cheville d'Eddie Jackson, qui a vraiment un point important dans cette défense en termes de turnover. Surveiller que ça soit pas trop grave, mais bon, je pense avec un peu d'antidouleur, tout ça, ça doit pouvoir passer.
Une petite piqûre.
Ouais, voilà, on va pas. Effectivement, mais comme tu dis, hein, pour peu que les Rams piétinent encore un peu et qu'ils arrivent à aller chercher une place à la maison une bye week, quand les attaques aériennes de la NFC vont devoir aller jouer dans le froid de Chicago face à une telle défense, je suis pas loin d'en faire des favoris pour aller loin. Hein.
Ouais, clairement, s'ils ont l'avantage du terrain, bon courage pour aller gagner là-bas. Je pense aux Saints et aux Rams qui sont un peu frileux.
Ouais.
Va falloir aller développer du jeu si pour peu qu'il neige ou un truc comme ça au mois de janvier à Chicago. Clairement, il va faire 0 degré en plus, minimum. Donc bon courage pour aller là-bas. 49ers 26, Seahawks 23, 14 pénalités pour 148 yards côté Seahawks. Ils se sont un peu tirés une balle dans le pied. Et puis surtout, les 49ers sont quand même très bien joués.
Oui, que le match le plus abouti des 49ers cette saison, hein, vraiment, ils ont été bons des deux côtés du ballon. Défensivement, surtout, ils m'ont vraiment impressionné en étant capable de poser pas mal de problèmes à l'attaque de Seattle. Donc, c'est encore une fois, c'est des bonnes bases. Peut-être même, j'ai envie de dire que San Francisco se rassure un peu après une saison, malgré l'absence de Jimmy Garoppolo. J'avais trouvé qu'il y avait des matchs où ils étaient vraiment pas bons, que c'était peut-être pas rassurant par rapport à ce qu'on voyait l'année d'avant. Ils retrouvent un peu ce côté agressif, un peu comme les Jets finalement. Si on fait un peu un parallèle entre ces deux équipes, donc c'est une bonne nouvelle pour San Francisco. Seattle, à mon sens, se tire une belle balle dans le pied pour les play. Enfin, ils vont sûrement aller en playoff, mais ils se compliquent un peu la tâche alors qu'ils pouvaient y être dès cette semaine en battant les 49ers. La semaine prochaine, ils reçoivent quand même Kansas City.
Oui, c'est pas cadeau. Clairement, Kansas City, après, ils finissent sur les Cardinals.
Oui, après.
C'est quand même mieux.
Mais bon, les matchs de division, c'est toujours un peu. Même si les Cardinals, je te l'accorde, a priori, bon, quand même. Mais bon, voilà, ils se sont peut-être un peu compliqué la tâche alors qu'ils auraient pu se la rendre plus simple dès cette semaine.
En défense, tu parlais de la défense des 49ers. Il y a 2 sacks pour DeForest Buckner qui fait une saison vraiment sac du coup. Et Fred Warner, qui est un bon jeune linebacker aussi, qui est en train de faire son trou. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est rassurant et ils continuent. Ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on dit ça depuis 2 ans. C'est que ils font une belle fin de saison et ils construisent pour l'an prochain. Bon, faudra juste que leur quarterback arrive à rester debout l'an prochain. C'est un peu la problématique, même si là, Nick Mullens fait un bon match. Ouais. Mais voilà, il va falloir convertir maintenant les bons espoirs d'une saison sur l'autre pour San Francisco. Et pour la petite anecdote, la dernière fois que les Niners ont battu Seattle, qui était le coach des 49ers ?
Harbaugh.
Jim Harbaugh.
Ouais.
Il n'avait pas battu Seattle depuis Jim Harbaugh, donc ça remonte quand même. Jaguars 13, Redskins 16, on enterrait les Redskins, mais ils sont toujours vivants. Josh Johnson, alors pour la stat, je ne savais pas, Josh Johnson n'avait jamais gagné un match en tant que titulaire. Depuis 2009, il avait été titulaire 5 fois en NFL. Il avait perdu à chaque fois, 4 fois avec les Buccaneers et une fois, je ne sais plus avec qui. Et là, ils ont gagné sur un field goal à la fin. Bon, c'était pas joli, joli.
Ouais,
mais ils ont gagné.
C'est pour dire dans quel trou sont les Jaguars. Parce que tu peux. Enfin, on peut en discuter longuement si on voulait, mais J'ai quand même du mal à croire que ces Jaguars-là et l'effectif qu'ils ont soient inférieurs à des Redskins conduits par Josh Johnson. Pour moi, ça montre juste que c'est une équipe de Jacksonville qui a complètement lâché à l'image d'un Jalen Ramsey qui s'en fout d'à peu près tout. Ce qui peut être problématique à un moment, mais bon, à ce niveau-là de telle démotivation, et je m'en fous.
C'était beau comme il a défendu son coach. Je ne sais pas si tu as vu la déclare.
Ouais, ouais. J'ai...
Quand on lui a dit la sécurité de l'emploi de votre coach, il a dit je pense qu'à moi-même.
Oui, non, mais c'est ouais. Ça. Donc, bon, voilà, c'est une équipe. Les Redskins s'accrochent, hein, faut leur accorder le mérite. Malgré un quatrième quarterback, plein de blessés sur la ligne offensive, ils essayent de faire quelque chose. Donc, bravo à eux. Et puis, ils tombent sur une équipe de Jacksonville qui est.
Mais c'est grande zéro à Jacksonville en fait en attaque. Il y a un touchdown en trois matchs et 192 yards dimanche. Donc c'est vraiment là, ils repartent de zéro. Il n'y a plus de quarterback. Leonard Fournette est quand même très souvent blessé. La ligne offensive était en lambeaux. Enfin voilà. Donc c'est...
Ah non, mais ce delta qu'il y a eu entre équipe finaliste d'AFC à ça, c'est quand même.
Ah oui, là c'est un crash. Hein. C'est très violent. Bills 14, Lions 13. On passe sur les trois derniers matchs où il n'y avait pas d'enjeu. Robert Foster, troisième match à plus de 100 yards pour les Bills. Pour la petite histoire, c'est un joueur qui était non drafté et qui n'avait quasiment rien fait à Alabama après avoir été une recrue 5 étoiles. Donc c'est une belle histoire, Robert Foster, du côté des Bills. On va retenir ça notamment de ce match. Après, c'est un vrai projet, hein, l'attaque de Buffalo, avec un Josh Allen qui est volontaire mais imprécis. Enfin, il y a un truc. Il y a une idée, il y a une inspiration. Mais ouais, ça reste en chantier.
Non, mais ils vont peut-être pouvoir le garder en coureur, Josh Allen, à un moment. Ça peut aussi devenir une solution. Ouais, c'est un chantier. Bon, bah écoute, on va voir. C'est un rookie. On va le laisser mener sa barque. Mais malgré tout, McDermott, qui fait avec ce qu'il a, un taf pas si mauvais. Hein.
Non. Il est étonnant. Hein. Depuis l'an dernier, il les avait amenés en play-off avec, pareil, trois bouts de ficelle. Enfin, il fait du travail de coach, hein, clairement.
Ouais.
Et puis, c'était la journée des receveurs. Kenny Golladay est à 7 réceptions, 146 yards en face, qui est à peu près le seul point positif pour des Lions, qui sont quand même sacrément aux abois cette saison. On parlait de saison à oublier à Green Bay, là, c'est pas mal aussi. Falcons 40, Cardinals 14. Gros match de Vic Beasley avec deux passes déviées et un sac. L'attaque a fait son boulot. Tevin Coleman est à 145 yards. Ça pousse devant Devonta Freeman dehors, ça, a priori. C'est peut-être aussi la leçon.
Oui, c'est ça. Une équipe des Falcons qui a retrouvé un peu ses stars défensives, pas au bon moment parce qu'ils ne jouent plus rien, mais il y a même le retour de Deion Jones, tout ça. Voilà, c'est une équipe qui, sur le papier, devait faire mieux. La saison aussi, chez eux, est à oublier. Mais je pense qu'à un moment, il y a eu une accumulation de blessures, de mauvais choix de coaching qui a un peu crashé la saison. Mais pour moi, c'est typiquement une équipe qui peut se relever dès l'an prochain.
Et alors, en parlant de choix de coaching, est-ce qu'à Arizona, on vire tout le monde dès la première année? Parce que cette équipe, elle a quand même pas l'air d'aller... Autant on parlait de ça se bat avec Sean McVay, il y a des intentions avec certains, etc. Autant là, j'ai du mal à retenir le nom du coach tellement il a l'air transparent. Quoi.
Steve Wilks, oui, c'est vrai.
Steve Wilks, ouais.
C'est vrai que... Alors, je ne suis pas un grand fan de se baser sur les images qu'on voit à la télé d'un coach en se disant « Ah, lui, il a du charisme, c'est un grand coach. » Mais c'est vrai que pour le coup, Wilks ressemble un peu à notre ami ancien des Lions et des Colts. Là.
Oui, Jim Caldwell.
Caldwell, merci. Voilà, j'ai un peu le même sentiment.
Ils ont pris 40 points de suite dans ce match. Ils se dirigent
C'est très compliqué. Il y a un Josh Rosen qui est juste pas prêt pour la NFL.
Oui, parce que autant, alors, il y a aucun rookie choisi au premier tour en général qui arrive dans des excellentes conditions, sinon il choisirait pas un quarterback. Darnold, il n'a pas non plus un milliard d'armes autour de lui, etc. Et je commençais à me dire ça pour raisonner tout, mais au final, il y a quand même Larry Fitzgerald, il y a quand même David Johnson. Alors bien sûr, il y a des choix de coaching qui sont pas toujours au top, il y a là, les coordinateurs, etc. Mais
ça va au-delà.
Là, ça devient compliqué, ouais. Ça devient inquiétant quand même. Alors,
ça va au-delà, il est pas prêt. Mais ce qui n'est pas une injure non plus. Hein. Rodgers a passé 3 ans sur le banc avant de jouer un match NFL. Donc
clairement.
Le problème Arizona, c'est qu'est-ce que tu fais d'un quarterback rookie que tu as quand même fait jouer quasiment toute une saison? Est-ce que tu peux vraiment le remettre sur le banc derrière?
Ben c'est ça. Je pense qu'il aura une chance une deuxième année, mais c'est pour ça que je pose la question du coach. C'est que c'est presque plus simple de changer les coachs pour essayer de redonner une impulsion et de le relancer.
Oui, je te rejoins. Je pense qu'il faut... Si les dirigeants d'Arizona doivent essayer par un électrochoc, mais un truc fort. Et pour moi, ça passe par le coach plutôt que par de remettre Rosen sur le banc et de saper un peu le moral du rookie, quoi.
On termine avec Bengals Raiders, 30 à 16 pour les Bengals. Alors une petite stat, parce que j'aime bien les stats un peu trompe-l'œil, regardez, c'est rigolo. Derek Carr n'a pas lancé une interception depuis 9 matchs. Tu vois, ça pète comme ça, ça fait bien. Mais en fait, il a perdu 6 fumbles, donc ça compense un peu, non? c'est juste pour dire la relativité de certaines stats. Tu sais, quand on te dit le mec a pas lancé une interception, sauf qu'il perd des fumbles quand même.
Ouais.
Bon, son équipe s'est fait marcher dessus par Joe Mixon, qui a 129 yards. Il gagne avec un Jeff Driscoll à 130 yards à la passe, 3 sacs de Geno Atkins. Les Bengals ont été plus forts. Ils ont plus de playmakers, j'ai envie de dire, presque avec un Joe Mixon et un Geno Atkins de chaque côté. Et ça a fait la différence.
Ouais.
Et ben voilà, on va rester là-dessus pour ce match. Qui nous, en effet, on va pas se mentir, c'était pas le match le plus inspirant. On avait les yeux sur pas mal d'autres choses cette semaine. On passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, Raphaël, je te laisse commencer avec ton top.
Pas le plus original, mais un top parce que ça m'a décidé un peu dans le titre de rookie défensif de l'année. Et donc, c'est Darius Leonard pour à nouveau une prestation ultra complète. Deux passes déviées, dont une sur troisième tentative des Cowboys, un fumble récupéré, un ou deux sacs, j'ai un petit doute. Mais là, je trouve qu'en fait, il commence à tellement, en plus d'être bon, à faire des actions vraiment décisives, des turnovers, que même si Derwin James, le safety des Chargers, c'est très très bon, Darius Leonard, en plus ce côté change turnover, machine à turnover et à action vraiment décisive, qui à mon sens là mérite un peu d'être récompensé quoi.
Je mets un plus. Hein. Mention honorable pour moi à DeAndre Hopkins, parce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure quand on parlait des textants, mais il est tellement fort. Je crois qu'il est à 170 yards encore sur ce match, la grosse réception pour le touchdown, ouais. il attrape ce genre de ballon de manière incroyable. Il est quand même en course, si on fait un top 3 des meilleurs receveurs du moment, je pense qu'il est pas loin d'être mon top 1.
Oui, sur le moment, oui.
Sur le moment, ouais. Tu vois, si demain tu joues, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. Mais mon top de base, c'était les Bears qui ont fait un worst to first, comme on dit en NFL, c'est-à-dire qu'ils sont passés donc, de la dernière place à la première de leur division. Et la petite stat que j'ai trouvée, que je trouvais super intéressante, c'est que ça peut paraître incroyable d'avoir fait worst to first. Ça sauf qu'en fait, sur les 16 dernières saisons, pardon, il y a 15 équipes qui sont passées de dernière ou dernière à égalité de leur division à vainqueur de division.
Et
t'allais dire la même chose que moi.
C'est ce qui fait que la NFL est aussi attractive pour les fans. Enfin...
Exactement. Exactement. Je trouve ça incroyable que sur les 16 dernières saisons, t'es 15 fois où t'as une équipe qui est passée de dernière à première de sa division. Et je trouve ça excellent, quoi. C'est pour ça qu'on regarde ça tous les dimanches.
Et en parallèle, c'est ce qui rend encore plus impressionnant la domination des Patriots.
C'est vrai. C'est vrai. De ce genre
tu
de
vois, si tu compares du coup être capable de dominer sa division pendant tant d'années alors que sur les 16 dernières années, t'as tout le temps une équipe qui est capable de passer de quatrième à première. Enfin,
Clairement. Ton flop
c'est facile, mais là, c'est les Giants, c'est la déclaration qu'Eli Manning en a pour jusqu'à 2020, même peut-être.
Est-ce qu'ils n'ont pas inversé? Parce que Tom Brady dit tout le temps qu'il veut jouer jusqu'à 45 ans, peut-être qu'ils ont cru que c'était Eli qui disait ça.
Ouais, je sais pas, mais là, tu vois, à ce niveau-là.
C'est chaud. Hein. À la limite, pour encadrer un jeune, mais il faut qu'il drafte quelqu'un, là, ça devient urgent quand même.
Ouais, non, mais bon.
Bon, on te soutient tous, Raphaël, on est tous avec toi. moi, mon flop, c'est pareil, je suis pas allé chercher très loin, mais c'est la défense des Rams, que là, pour le coup, on l'a beaucoup dit pendant l'année, est-ce que ça va revenir? J'abandonne officiellement sur la défense des Rams, qui, je le pense, va quand même être un point faible assez compliqué à gérer en playoff. Donc, à voir, mais comme tu l'as dit, ils vivent et ils meurent par le turnover, en fait. Donc, à partir de là, c'est quand même pas toujours bon signe, à moins d'être méga opportuniste pendant les playoffs. Mais ça risque d'être assez
risqué. Hein.
On passe aux questions. Raphaël, es-tu prêt pour les questions?
Oui.
Il y en a des bonnes. Alors, question de Suggs My D. Au vu du classement, peut-on toujours affirmer que la NFC est plus forte que l'AFC? En effet, lorsqu'on regarde les équipes en wildcard et dans la course, les bilans de l'AFC sont bien plus solides que ceux de la NFC. N'est-ce pas là une idée reçue?
On peut pas l'affirmer cette année. Hein. Effectivement, moi, en début de saison, j'avais l'impression que les cadors de la NFC étaient bien plus forts. Là, ces dernières semaines, ça a tendance à se démentir un peu. Globalement, je pense que globalement, par contre, en fait, il n'y a pas de cadors vraiment cette année. Il n'y a aucune équipe qui.
Oui, mais ça fait un écho un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les inversions de hiérarchie dans les divisions, etc. En fait, on croyait des choses au début de la saison et ça bouge pendant la saison et on voit qu'en effet, c'est plus équilibré que ça, quoi. C'est la NFL. C'est un peu. Moi, ça me choque pas, encore une fois. Et c'est vrai je suis comme toi, je pensais que c'était beaucoup plus costaud en haut de la NFC. Et finalement, ça s'équilibre, quoi. Là, si tu mets des Chiefs au Super Bowl, ils auront leur chance contre n'importe quelle équipe de la NFC et vice versa. Donc voilà, ça va être des beaux playoffs. Petite question marrante de Carson Legronk, la stratégie des Eagles de préserver leur vrai quarterback numéro 1 lors de la saison régulière afin que les équipes adverses n'aient pas le temps de s'ajuster en playoff ne devient-elle pas trop évidente? Le retour de Saint-Nick Foles en terre promise, le Memorial Coliseum, marque-t-il le début d'une dynastie? Quelle équipe pour titiller les Eagles sur la route du Super Bowl? Bon, là je crois qu'il y a pas, ça appelle pas vraiment de réponse, mais je trouvais la blague assez sympa. Question de Fidel Gastro, est-ce complètement utopique selon vous d'envisager Aaron Rodgers dans une autre franchise que les Packers la saison prochaine?
Oui.
Oui, voilà.
Ah oui, surtout la saison prochaine, surtout.
C'était juste pour qu'on dise oui en cœur. Une question qui revient souvent, tiens, Dirty Fighter, quel serait le meilleur point de chute pour Joe Flacco? Quel bilan faites-vous de ses 11 campagnes avec les Ravens?
Bonne question. Sur le papier, moi, je serais tenté de dire que Jacksonville peut être une bonne destination. Tu as une défense qui, malgré tout, a des talents. Avec un nouveau coaching staff, ça peut être intéressant comme destination pour lui. De toute façon, si tu fais la liste des équipes, il n'y en a pas tant que ça qui sont intéressés par un quarterback. Hein. Et par Joe Flacco en plus. Beaucoup seraient intéressés peut-être par Patrick Mahomes, mais par Joe Flacco à l'heure actuelle, pas tant d'équipes que ça seraient intéressées.
La question, ça va toujours être de savoir est-ce qu'il vaut mieux lui ou drafté? Parce qu'au final, un mec drafté coûtera moins cher. Donc, est-ce qu'il vaut mieux qu'un choix du premier, même du deuxième ou du troisième tour à développer d'ailleurs?
Bah, je pense sincèrement que pour des équipes comme Jacksonville ou pourquoi pas même les Broncos, tu te disais, est-ce qu'ils sont dans un win now ou pas?
C'est vraiment ça la question en fait. C'est l'équipe à qui il manque un quarterback un peu ric-rac, quoi.
Ouais, et du coup, à ce titre-là, Jacksonville, Denver et un de nos auditeurs sur Twitter, La Mouche, Will. Qui faisait remarquer que Washington aussi, suivant la blessure d'Alex Smith, avec une grosse défense, du jeu au sol.
C'est vrai que, ouais, en plus, comme la blessure d'Alex Smith a l'air quand même particulièrement compliquée, ça peut être une option à surveiller, pas bête. Question de Jean Bassoncou, les Patriots qui évitent le touchback, tels des équilibristes funambules, les pieds dans le terrain au centimètre près, action de l'année sur les unités spéciales, point d'interrogation. C'était sympa en tout cas.
Ah ouais, oui, c'était hyper spectaculaire. C'est clairement l'action de l'année en équipe spéciale, ça.
Et puis avec deux mecs parce qu'il y en a eu deux, enfin c'est incroyable. Superbe action, on vous la recommande si vous le pouvez. Question de Belge 48, alors c'est pas vraiment une question. Hello les gars, Alain, tu es bien parti pour perdre les pronos, mais vous n'avez pas encore parlé du gage. Voici donc ma proposition. Le perdant devra se déguiser en Bob l'éponge et chanter la fameuse chanson Sweet Victory. Qu'en pensez-vous? Alain s'attirait à merveille. Il a mis ah 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 à la fin. Il faut qu'on discute de ça. Oui. Je ne sais pas si ça va être facile de trouver un costume de Bob l'éponge.
Oh, je pense que ouais.
Ouais.
Ouais. Je...
Bah, pourquoi pas. Après, je ne connais pas du tout la chanson en question, donc c'était à étudier aussi.
Moi, ouais, t'inquiète, allez, franchement, c'est mieux que du Call Me Maybe ou autre. Hein.
D'accord. Bon. Roustokovitch a la question la plus dure de l'année. Je te le préviens tout de suite.
Ah.
Salut les gars, j'aimerais comprendre pourquoi les Lions ratent complètement leur saison. J'aimais beaucoup cette franchise et je pensais qu'ils avaient de l'avenir avec une attaque intéressante et une défense correcte. Qu'est-ce qui cloche? Stafford, point d'interrogation. Stafford surcoté, point d'interrogation. Patricia, point d'interrogation.
Ah, ouais, il faudrait presque une émission spéciale là-dessus. C'est dur à dire.
C'est sûr. Hein.
Un coach qui est dans sa première année, donc ça pose sans doute des questions à ce niveau-là.
On rappelle qu'ils étaient à 9-7, hein, je crois, l'an dernier, et qu'ils virent Caldwell pour essayer de passer un palier.
Ouais, mais non, mais... Je leur en veux pas d'avoir tenté le coup, hein, franchement.
Oui, non, ça se tentait, clairement. On peut pas leur reprocher ça. Mais c'est vrai que c'est une équipe compliquée à appréhender. Hein, il y avait en plus un peu de jeu au sol avec Kerryon Johnson qui était arrivé, donc il y avait de l'espoir enfin à ce niveau-là. Mais et on sent en plus qu'ils ont bazardé la saison quand ils envoient Golden Tate ailleurs en plus.
Ouais.
Donc drôle de saison pour les trois.
Manque un peu
trois.
De talent en défense peut-être encore, mais
ouais.
Plusieurs petites choses qui font que le mécanisme est pas parfait, quoi.
Question de Stex. Salut l'équipe, est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter de sous-estimer l'AFC Sud? Je sais que c'est toujours pas que c'est pas toujours flashy, mais les résultats sont là. Ils ont actuellement 3 équipes à au moins 8 victoires. Seule division à en être là à l'heure d'aujourd'hui. Sans oublier que, pas plus loin que la saison dernière, ils envoient 2 équipes en play-off, finale de conf, plus divisional.
Je sais pas si c'est sous-estimé, mais je dirais, moi je pense qu'une partie se joue aussi sur le fait que depuis maintenant... J'ai même presque envie de dire, depuis que Peyton Manning est parti des Colts, personne ne place une équipe de l'AFC Sud comme potentiel vainqueur du Super Bowl.
Oui, oui, c'est vrai. Et même s'ils ont fait finale de conf quand même, hein, avec...
Oui, c'est vrai qu'il y a eu cet espoir, mais c'est redescendu après avec la blessure, tout ça. Et je pense que le fait d'avoir depuis 2-3 ans aucune équipe qu'on voit potentiellement comme un vainqueur de Super Bowl fait peut-être qu'on a tendance à regarder la division d'une autre manière que...
C'est vrai que ça a été une division en plus pendant un moment sans, du coup, comme tu disais, après le départ de Manning avec la blessure de Luck, sans franchise quarterback, sans mec qui était porteur, qui était un visage un peu de cette division. Et on sait que quand même les divisions ont souvent aussi un visage. Voilà, Tom Brady, c'est la NFC Est. Alors après, la NFC Est, c'est des franchises fortes, les Giants, les Cowboys, etc. Mais en général, c'est vrai que les divisions ont souvent un leader ou quelque chose comme ça qui est un peu une tête de gondole, quoi. Donc ils n'avaient pas vraiment ça. Avec un Andrew Luck blessé. Question
puis,
de...
Juste comme tu dis, c'est qu'en plus, la plupart des équipes de l'AFC Sud sont plutôt jeunes, en dehors des Colts, sont plutôt jeunes par rapport à l'histoire de la NFL. Et je pense que ça joue aussi un peu dans ce côté division sous-côté, un peu moins regardé, parce que comme tu dis, c'est pas les Giants, c'est pas les Redskins, c'est pas les Cowboys. Je pense que ça joue un peu ce côté jeune de ces équipes, quoi.
Aussi, ouais, aussi complètement. Question de Archie Manning. On assiste depuis quelques semaines à des matchs bien plus compliqués pour les top teams pour lesquels les orgies de points sont terminées. Comment peut-on expliquer ça? Plus de tension à l'approche des playoffs où ces équipes lèvent le pied à contrario d'autres qui sont à fond pour arracher une place. Et de ce fait, est-ce que ce sprint final est l'explication de défense qui monte leur niveau de jeu? C'était Archie Manning qui nous demandait ça.
Ouais,
c'est vrai que ça a levé le pied.
Ouais, c'est... Après, ça reste un peu classique de voir les défenses revenir un peu plus fort en fin de saison. Plus de vidéos, plus de temps pour les coordinateurs défensifs de vraiment bien s'adapter à ce que proposent les attaques adverses. Globalement, c'est souvent un schéma qu'on voit quand même, avec où finalement en play-off, et c'est pour ça qu'on a tendance à dire c'est la défense qui gagne les championnats, c'est parce qu'à l'approche des play-offs, les défenses souvent se resserrent un peu, même si ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Enfin, pour le Super Bowl en tout cas, pour le reste, c'est quand même globalement
c'est ça. C'est ça, moi je suis d'accord avec toi, c'est un peu la physionomie annuelle, en décembre ça se resserre, il fait plus froid, on s'ajuste aussi, hein. Les coachs ont vu de la vidéo, étudié, il y a aussi ça, hein, il y a des ajustements.
Ouais, il y a ça, et puis n'oublions pas le facteur blessure quand même, hein. T'as beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes qui perdent des joueurs talentueux, ça a forcément un peu d'impact en attaque.
C'est vrai.
Enfin, je veux dire, là, c'est pas une blessure, mais Kansas City passe de jouer avec Kareem Hunt à sans Kareem Hunt, forcément ça a un impact sur le jeu. Les Saints sont des blessures sur leur ligne offensive, voilà, ça...
Oui, et puis il y a l'usure hein, aussi. Hein.
Ouais.
Sans être officiellement blessé, il y a quand même pas mal de joueurs qui commencent à être dans le dur hein, à cette période de l'année. Donc tu rajoutes le froid, tu rajoutes tout ça. C'est pas évident. Question de Lambeau Squirrel. Les Raiders étant indésirables à Oakland et pas encore prêts à s'installer à Las Vegas, la NFL ne pourrait-elle pas envisager de délocaliser la franchise à Londres pour un an? En tournant sur les 3 stades possibles, on pourrait y avoir un super test pour la possible future franchise londonienne, les Marmites, bien sûr. C'est pas... complètement idiot, moi, je trouve, de dire pourquoi pas Londres si personne ne veut d'eux pendant un an. Ce serait pas le truc le plus délirant qu'ait fait la NFL. Hein.
Non, peut-être pas le plus délirant, mais j'ai quand même du mal à
Moi, ce serait un bon délire, franchement.
Non, je pense qu'ils vont encore racketter une ville pour qu'elle mette au panier, mais bon, c'est un autre...
C'est un autre sujet de
C'est un autre débat. Qui un jour pourrait valoir le coup de faire d'en parler, mais...
Mais on va être tous d'accord non, sur le fait que la NFL rackette les villes pour avoir des stades et que c'est honteux.
On est
et que
tous
les
d'accord, mais je
ne
sais pas
payer.
Si. Ou alors un papier, mais je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs soient conscients de comment la Ligue rackette les villes pour.
C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait en parler. On pourrait en parler
juste
plus
faire découvrir ça, tu vois.
Oui, non, mais il y avait un très bon. Alors pour ceux qui sont anglophones, c'est John Oliver dans Last Week Tonight qui avait fait un sujet comme ça. C'est des sujets d'une vingtaine de minutes. Où il expliquait bien justement ces mécaniques de demander de l'argent public, de faire une sorte de chantage à la fois à l'économie, à la fois à l'emploi, pour avoir des stades et pour faire raquer les collectivités locales. Et puis en plus, c'est ça, il y a des histoires en plus de prêts très longs ou des choses comme ça. Enfin, les villes s'endettent énormément pour ces trucs-là.
C'est ça.
Bon, voilà, bon. Donc tout n'est pas rose dans le monde de la NFL.
Saint-Louis, par exemple, Saint-Louis qui avait les Rams il y a encore quelques années, Saint-Louis continue à payer des dettes, de l'endettement sur la franchise des Rams, alors que les Rams n'y jouent plus, quoi. Enfin...
Voilà, donc c'est en effet, il y a des pratiques très charmantes de la NFL pour faire cracher les villes et leur faire regarder leurs équipes.
Donc
et
quelqu'un, du coup, s'ils vont à Londres, la question c'est qui paye.
Je disais ça d'ailleurs, dis-moi.
Oui.
Tu disais ?
Oui, je disais, si tu envoies les Raiders à Londres, qui paye pour tout ? C'est le proprio des Raiders du coup qui allonge
C'est une bonne question ça.
Ouais, tu vois, ça... Ouais.
Non, et ce que j'allais dire, c'est que si les... Parce qu'on parlait justement des magouilles et des stades et des machins, on pourrait quand même avoir une finale de conf à AFC dans un stade de foot de 30 000 places si les Chargers sont la tête de série numéro 1.
Ouais.
Je dis ça quand même. C'est...
Ouais, Rams, c'est... Ouais.
Dans un stade de foot de 30 000 places où tout le monde s'en fout d'eux, a priori, en plus d'ailleurs.
Donc, ouais,
je
ne
sais pas si ça a changé depuis le début de l'année, mais bon. Voilà donc pour les questions. D'habitude, on passe au match du jeudi, mais c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a plus de match du jeudi. Je vais pouvoir dormir le vendredi matin. Merci beaucoup, la NFL. donc, on va passer tout de suite au 2-minute warning. Raphaël, avec trois petites questions simples. La première, le pull de Noël de Mitch Trubisky, est-ce que tu es pour ou contre ?
Allez, pour.
Ah, t'es pour. Moi, je suis contre le fait qu'on consomme des trucs comme ça juste parce que c'est moche et qu'on va les laisser dans un placard et qu'on les utilisera plus jamais. C'est pas utile. Je suis votre conscience verte cette année pour Noël. Est-ce que Sébastien Janikowski a vraiment essayé de plaquer le retourneur ?
Non. Bon, alors là.
Et enfin, est-ce que toi aussi, tu penses, comme Bill Belichick, que Noël a été mal placé au milieu de la saison NFL ?
Ah, j'ai pas vu ça. Il a déclaré ça.
En fait, il a dit un truc. Il est rentré en salle de presse. Il a regardé le journaliste en disant ça va, vous avez eu le temps de faire votre shopping. Donc les mecs répondent. Et là, il dit Noël est placé à un mauvais moment au milieu de la saison NFL.
Ouais, c'est clairement, il a un futur rôle en tant que Grinch sans aucun souci, l'ami Bill. Hein.
Ah, je trouvais la déclaration tellement drôle. Bon, c'est du Bill Belichick. Tu te demandes au bout d'un moment s'il fait exprès ou s'il prépare ce genre de truc-là pour rigoler, quoi.
Ouais, un peu de deux, sans doute.
Allez, c'est comme ça que se termine l'épisode 272 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end, les pronostics. Le dimanche, ce sera Fouteuil. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Et ces soirées Game On, c'est tous les dimanches à partir de 19h avec Happy Hour étendu si vous venez voir les matchs. Nous, on se retrouve au Hard Rock Café, on vous le rappelle, le mardi 8 janvier à partir de 18h, 19h pour l'enregistrement. Et puis on mange ensemble après si vous avez envie de rester. Là aussi, ce sera Happy Hour étendu, donc n'hésitez pas à venir. Et on sera encore là le 5 février. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Il y a Ben Steelers, Rouquinho, Anthony Ruiz, Gouiche23, Pantoufle et Danton Cubé qui sont ajoutés à la liste cette semaine. Pour nous suivre, touchandactu.com bien sûr, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu aussi, Instagram touchandactu, @touchandactu. Pour les Twitter perso, Raphaël _TDA pour Raphaël, Camille Saraben pour Camille et Alain Mattei pour moi-même. Merci beaucoup messieurs.
Bah merci à toi.
Et puis on se retrouve jeudi alors. Allez, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de six journées, n'importe
où. Oui.
Quel que soit le moment où vous nous écoutez, c'est un podcast de toute façon. Vous nous écoutez n'importe où. Prenez soin de vous. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve jeudi. Ciao, ciao.
Ciao. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost. Like a coin that won't get tossed. Rolling home to you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.